mandrin. Première partie, chapitre 13. Une nuit de noces mouvementée. La première impression que cette révélation foudroyante produisit sur les invités du fermier général fut celle d'une farce de mauvais goût dont il importait de châtier au plus vite le trop facétieux auteur. Mais Bourré, à la vue de pistolet, avait instantanément compris qu'il ne s'agissait point d'une plaisanterie et s'élança vers l'exempt qui, d'un geste menaçant, lui indiquait le tréteau d'où Mandrin, en l'espace d'un éclair, venait de déguerpir. Bourré et pistolet voulurent se précipiter vers l'estrade, mais les invités qui, à l'attitude de leur hôte, se rendaient maintenant compte que la chose était sérieuse, formaient une vivante barrière qui les empêcha de s'élancer à la poursuite de l'étrange escamoteur. Celui-ci, profitant du désarroi que l'intervention de pistolet venait de provoquer dans l'assistance, s'était précipité par la porte de la Seine dans le petit salon où Scapin et Scaramouche avaient entraîné Nicole, et, se dépouillant de sa défroque de physicien, il saisit la jeune fille dans ses bras et, bondissant dans le vestibule, l'emporta directement dans sa chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée et que, pendant la journée, il avait eu le temps de reconnaître. Alors, tandis que les faux comédiens se répandaient dans la maison en poussant des cris et en cherchant à disperser sur eux l'attention du châtelain, de ses invités et de ses domestiques, Mandrin, après avoir déposé sur un canapé Nicole, qui s'était évanouie, fixait, à l'aide d'un poignard, sur le battant extérieur de la porte, une large pancarte qu'il avait tirée de sa poitrine. Puis, s'enfermant à double tour, il s'en fut à la fenêtre qui donnait directement sur la terrasse et l'ouvrit toute grande. Des ombres indistinctes s'agitaient dans le jardin. Mandrin, qui suivait un plan soigneusement combiné, revint vers Nicole, la saisit de nouveau dans ses bras et disparut par la fenêtre, rejoint par les ombres qui n'étaient autres que des hommes à lui, qu'il avait postés dans le jardin afin de protéger sa fuite. Pendant ce temps, quelques invités et une partie de la valetaille s'élançaient à la poursuite des faux comédiens, qui continuaient à jouer, avec un talent aussi spécial que remarquable, les rôles différents que Mandrin leur avait assigné dans la tragicomédie dont il était le principal interprète. Mais les amis et les gens du fermier général avaient affaire à forte partie, et il n'était pas né assez malin chasseur d'hommes pour triompher des feintes de messieurs les compagnons de Mandrin. Pistolet lui-même, au milieu de ce brouhaha, ne pouvait donner libre cours à ses remarquables qualités de policier. Et lui aussi, tel un limier éperdu parmi une meute déroutée, se démenait en vain. Lorsqu'un laquais, le seul qui peut-être n'eût pas perdu la tête, surgissait dans le vestibule où s'agitait toute cette foule désemparée. « J'ai vu Mandrin, clamait-il, qui pénétrait dans la chambre nuptiale, avec Madame Bourré d'Érigny dans les bras. » Bourré, bousculant ses gens, s'élança vers le large couloir qui conduisait à ses appartements particuliers. Mais à peine était-il arrivé devant la porte qu'il s'arrêtait figé de stupeur. Et voici ce qu'il lut, tracé en gros caractères manuscrits sur la pancarte qu'un instant auparavant Mandrin avait fixée au battant avec la lame d'un poignard. Arrêté. Par ordre du sieur Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France. Défense sous peine de mort au fermier général Bourré d'Érigny de pénétrer dans la chambre de sa femme le soir de ses noces. Mandrin. Au comble de la fureur, le fermier général voulut pénétrer dans la pièce, mais la porte était fermée au verrou. Tandis qu'aidé par plusieurs de ses domestiques, il cherchait à l'enfoncer, Pistolet, qui était demeuré dans le vestibule et avait retrouvé tout son sang-froid, commandait à plusieurs domestiques qui l'entouraient. « Armez-vous et descendez dans le parc avec des torches. Le bandit ne doit pas être loin. » À peine avait-il proféré ces mots que l'intendant Caboche s'approchait de lui et annonçait « Monsieur l'exempt, je viens d'apercevoir dans le grand salon un des masques, l'arlequin, je crois, qui se cachait derrière une tenture. » Pistolet s'élança aussitôt, suivi de plusieurs laquais, et pénétra en coup de vent dans le grand salon. À sa vue, Thiennot, qui, serré de près par deux invités, avait réussi à les dépister en se dissimulant derrière le rideau de l'estrade, voulut s'enfuir par la petite porte qui donnait sur le foyer. Mais il se heurta à l'intendant qui lui barra le passage. Et comme il se retournait, il se trouva face à face avec l'exempt, qui l'empoignait par le bras, en disant « Au nom du roi, je t'arrête !» En même temps, des coups de feu retentissaient au dehors. C'étaient les gens de Bourré-d'Hérigny qui, ayant aperçu dans le parc plusieurs ombres à travers les allées, déchargeaient leurs armes dans la direction des fugitifs. Bourré-d'Hérigny, au bruit des détonations, s'était élancé sur la terrasse. « En avant !» s'écria-t-il. « En avant !» Mais de nouveaux coups de feu partaient, tirés cette fois par les amis de Mandrin, qui, dissimulés derrière les massifs, cherchaient à favoriser la fuite de leur chef. Une balle siffla aux oreilles du fermier général. « Le bandit !» grinça Bourré-d'Hérigny, qui écumait de rage. Et voilà que, grotesquement affolé, le ménage malicé se jetait tout à coup dans ses jambes. « Nicole, ma fille, mon enfant !» hurlait Thérèse éperdue. « Nicole !» ripostait Bourré, l'écume aux lèvres. « Mandrin vient de l'enlever !»« Mandrin ?» clamait Madame Malicé au comble de l'émoi. « Mandrin ?»« Tu entends, Agénor ? Mandrin a enlevé Nicole !» Mais le fermier général n'écoutait plus sa belle-mère, comprenant que, pour l'instant du moins, toute poursuite serait inutile et même dangereuse, il rentrait, ivre de fureur, dans le grand salon. La première personne qu'il aperçut fut Pistolet. « Décidément !» s'écria-t-il, avec un accent de grande colère. « Monsieur l'exempt, vous n'êtes qu'un manant !»« Monsieur le fermier général, » ripostait Trollon, non sans audace, « ne me faites pas regretter d'avoir accompli tout mon devoir. »«
Tout votre devoir ?
D'abord, qu'êtes-vous devenu pendant tout ce temps dont ce bandit a profité pour m'enlever ma femme ?»« Monsieur le fermier général, » ripostait Pistolet, « j'ai été fait prisonnier par la bande à Mandrin. »
« Ceci n'est guère à votre louange ?»«
Je vous jure que ce n'est pas sans peine que j'ai réussi à reconquérir ma liberté, et que ce n'est point ma faute si je n'ai pu arriver à temps pour déjouer les projets de ce bandit. Mais, somme toute, je n'aurais pas fait une besogne entièrement infructueuse, puisque j'ai réussi à mettre la main sur l'un de ses complices. » Et Pistolet désigna à M. d'Hérigny Thiennot, que deux laquais maintenaient en respect.
« Quoi ? » s'exclamait dédaigneusement le fermier général. « Ce n'est que l'arlequin !»«
Qui m'a tout l'air d'une arlequine !» déclarait l'exempt avec un mystérieux sourire.
« Une arlequine ?» répéta Bourré d'un air sceptique.
Alors, revenant vers Thiennot, figé en une attitude farouche, l'exempt ordonna d'un ton plein d'autorité ironique « Ce garçon me paraît blessé !» « Déshabillez-le !» Instinctivement, Thiennot ramena ses mains vers sa poitrine. Et comme ses gardiens cherchaient à les écarter, il se mit à se débattre avec une frénésie qui était déjà tout un aveu.
« Arrêtez !»
ordonna Pistolet. Et, s'adressant à M. d'Hérigny, « Monsieur le fermier général, » fit-il, « ainsi que je vous l'avais prédit et que vous venez, hélas, de le constater vous-même, Mandrin est un rude, un très rude adversaire. Mais les cloches de Pâques n'ont point encore sonné que je sache, et je ne désespère nullement, si toutefois vous me laissez faire, de vous livrer bientôt votre ennemi et de vous rendre votre épouse. » Puis, baissant la voix, il ajouta « Vous voyez ce jeune homme, ou plutôt cette jeune femme ? Eh bien, monsieur le fermier général, c'est par elle que je vaincrai. » Rongeant son frein, Bourré-d'Hérigny gronda. « Je le souhaite, monsieur l'exempt, autant pour vous que pour moi-même. » Épistolé, rejoignant Thiennot, qui l'enveloppait d'un regard de défi et de haine, fit,
avec un sourire féroce qui dut faire frémir tous les assistants. « Maintenant, belle Arlequine, à nous deux !»
Simandrin, pour enlever Nicole à Bourré d'Érigny, avait déployé une adresse qu'un escamoteur professionnel lui eût enviée. Il n'avait nullement négligé, ainsi qu'on le pense, de préparer avec une minutie incomparable toute la suite de cet enlèvement si prodigieusement accompli. Tandis que ses compagnons, adroitement postés sur son chemin, tenaient en respect Bourré d'Érigny et ses gens, il franchissait, avec son précieux fardeau, une des grilles du parc que Mi-Carême et Carnaval avaient préalablement ouverte, et devant laquelle ils montaient tous deux une garde vigilante. Puis, suivis par eux, ils disparaissaient bientôt dans la campagne, longeant l'allée d'un bois touffu qui aboutissait à une petite rivière. À la berge était amarrée une barque dans laquelle attendait un contrebandier. Mandrin y sauta avec ses deux lieutenants et installa délicatement sur des coussins Nicole, qui n'avait pas repris connaissance. L'embarcation s'éloigna aussitôt à force de rames.
« Maintenant, respira le capitaine, nous sommes sauvés. »
Deux de ses soldats, dont l'un projetait du sommet des gradins de pierre la flamme d'une torche, l'autre, s'approchant de son chef, lui dit « Capitaine, la voiture que vous avez commandée attend au carrefour de la route de Grenoble et de Chambéry. » Mandrin s'élança aussitôt dans la direction indiquée par son compagnon, où, en effet, il trouva une vieille chaise de poste aux lanternes éteintes, attelée de quatre vigoureux chevaux et conduite en postillon par un grand gaillard armé d'un solide fouet de cuir. Mandrin déposa Nicole à l'intérieur et s'installa près d'elle. La voiture s'ébranla aussitôt en un bruit de ferraille, escortée par Carnaval et Mi-Carême et les deux autres contrebandiers qui s'étaient empressés de sauter sur les quatre chevaux qu'un de leurs camarades tenait en bride. Décidément, le capitaine n'avait négligé aucun détail. Il pouvait être fier de lui et satisfait du service de ses soldats. Il venait de prouver une fois de plus que, s'il savait commander, il savait aussi se faire obéir. Bientôt, la chaise de poste s'arrêtait au pied d'une colline sur laquelle se dressait, à la clarté de la lune, la silhouette imposante des vieilles ruines du château de Saint-Barnabé. Depuis près d'un an, Mandrin en avait fait l'un de ses plus secrets repères. Ces ruines présentaient pour lui, entre autres, deux grands avantages. D'abord, elles s'érigeaient sur un piton assez élevé et d'où il était facile à des guetteurs d'observer les alentours et de prévoir ainsi toute surprise. Puis, elle n'était guère éloignée de plus d'un quart de lieue de la frontière savoyarde, ce qui, en cas d'alerte, permettait au capitaine ainsi qu'à ses soldats de se retirer en lieu sûr par des chemins connus d'eux seuls et d'échapper, sans coup férir, aux poursuites de la maréchaussée. Voilà pourquoi, redoutant non sans raison les périls et les fatigues d'une trop longue randonnée nocturne, le capitaine, avant de réintégrer son quartier général, avait décidé d'emmener Nicole dans ce site qui lui offrait momentanément, du moins, toutes les garanties de sécurité nécessaires, et où il avait donné l'ordre à tous ses compagnons de le rallier individuellement et par des routes différentes. En attendant, il avait emporté Nicole, toujours évanouie, dans l'une des salles du vieux donjon. Et après l'avoir déposée sur un large coussin de brocart qui recouvrait presque entièrement un banc de pierre, « Maintenant, murmura-t-il, Bourré d'Érigny peut chercher sa femme. Je le défie de venir me la reprendre ici. » Soit qu'elle éprouva inconsciemment la certitude de son salut, soit qu'elle fût en quelque sorte galvanisée par l'amour rayonnant de celui qui venait si audacieusement de la conquérir, Nicole commençait à reprendre peu à peu ses esprits. Tout d'abord, un profond soupir gonfla sa poitrine et s'exhala de ses lèvres.
Puis, ses paupières se soulevèrent légèrement pour se refermer aussitôt, comme si elle redoutait que son beau rêve ne s'envolât. « Nicole ?» appelait tendrement le beau capitaine. Alors, de nouveau, elle rouvrit les yeux et reconnut Mandrin qui, penché sur elle, guettait ardemment son retour à la vie. « Vous ? » fit-elle. « Vous ?» Et elle ajouta, en joignant les mains en un signe de gratitude immense, « C'est donc vrai ?» Soudain, son visage exprima une profonde tristesse sous laquelle perçait une craintive angoisse. « Qu'avez-vous ? » s'écriait Mandrin. « Auriez-vous peur encore ?»« Oui, j'ai peur, » murmura Nicole, toute frissonnante. « Je comprends, » reprenait Mandrin. « Ce n'est pas dans ce décor sinistre, au milieu de ces ruines sauvages, que j'eusse voulu que vous vous réveilliez, mais je ne tarderai pas à vous conduire dans mon château de Rochefort, dont je veux faire pour vous, ô ma reine jolie, la capitale d'un petit royaume. » « Ce n'est point cela, » reprenait Nicole. « Quoi donc, mon adoré ? Sans doute craignez-vous que Bourré d'Érigny ne cherche à vous reprendre, mais soyez sans inquiétude. Ici, vous n'avez rien à redouter ni de lui, ni de personne. Je le sais, puisque vous êtes près de moi. Alors, pourquoi tremblez-vous ? Parce que je crains de vous avoir fait de la peine.
À moi ?
N'avez-vous pas pensé que je vous avais trahi ?
Non,
car j'ai appris par Martine les odieux procédés dont Bourré avait usé envers vous pour vous contraindre à devenir sa femme. J'avais juré de vous arracher à ce misérable. J'ai tenu mon serment. Mais, mon père, mais maman !
Soyez rassurés sur leur sort, déclarait Mandrin.
Et il ajouta en souriant, « Vous ne voudriez pas que monsieur le fermier général fît mettre en prison son beau-père et sa belle-mère ?» À ces mots, Nicole murmura en baissant la tête et les yeux tout pleins de larmes, « C'est vrai, je suis mariée. » Mais Mandrin, l'attirant dans ses bras, s'écriait,
« Non, Nicole, vous n'êtes pas mariée. »
« Est-ce possible ?»«
C'est la vérité, » déclarait le capitaine.
Et tandis qu'un sourire de divine allégresse illuminait le clair et pur visage de Nicole, Mandrin reprit : « Je vais vous en donner dès à présent la preuve. »